trois invités ce matin dans le grand entretien sur France Inter pour parler de l'Afghanistan, parce que la situation continue de se dégrader au pays des talibans. Certes, ils n'ont pas encore officiellement repris le pouvoir, mais les experts voient mal comment ils pourraient en être désormais empêchés. C'est donc une question de temps importante pour la population sur place qui tente tant bien que mal de les refouler et qui cherche surtout quand elle le peut à fuir ce pays, l'Afghanistan, qui pourrait à nouveau glisser, redevenir un pays refuge pour les terroristes. Est-ce que c'est une issue possible? Est-ce que c'est plausible? Vos questions, vos réactions comme chaque matin sur France Inter au 01 45 24 7000. J'ai le plaisir de vous présenter Nassim Majidi qui est à mes côtés. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice et la co-directrice d'un centre de recherche basé à Kaboul, le centre Samuel Hall. Avec nous également l'ancien diplomate Georges Lefeuvre, chercheur associé à l'IRIS et spécialiste de l'Afghanistan. Bonjour à vous également.
Bonjour.
Et puis je salue pour finir Adel Abdul Zarik. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous aussi.
Bonjour.
Razik, vous êtes Afghanistan, vous êtes un ancien interprète qui a travaillé pour l'armée française et vous êtes aujourd'hui installé en France. Je voudrais d'abord qu'on fasse un petit peu l'état de la situation. Je me tourne vers vous, Nassim Majidi. Est-ce qu'il est juste de dire que la victoire des talibans après le départ des États-Unis et après le départ aussi de tous les pays occidentaux, est-ce qu'il est juste de dire que les talibans sont maintenant très vite aux portes du pouvoir, vont effectivement maintenant prendre le pouvoir immédiatement ou quasiment?
Oui, c'est possible dès le mois de septembre, Kaboul chute, même si le deal entre les Américains avec le président Trump avait été de laisser les villes et de ne pas s'attaquer aux villes. Aujourd'hui, les talibans se rapprochent des villes, justement. Ils sont à juste 5 kilomètres de la ville de Mazar-e-Sharif dans le nord. Ils sont au port de Kaboul. Leur tactique a été de prendre contrôle des frontières très vite pour mettre une pression économique et psychologique sur le pays et ensuite se rapprocher des centres urbains. Aujourd'hui, ils ont demandé à ce que le président Ghani démissionne. Ils vont continuer à faire monter la pression sur le palais présidentiel et de faire un coup tôt ou tard. En tout cas, les ambassades se préparent pour ça. Elles se préparent d'ailleurs pour de nombreuses ambassades à fermer pour ne pas légitimer une prise de pouvoir par la force. Les Afghans vont donc se retrouver aux mains des talibans qui sont les grands gagnants de cette histoire afghane. Et la population afghane seront les perdants, c'est certain.
Mais on le dit depuis un mois, qu'ils sont aux portes du pouvoir. Ça prend quand même un tout petit peu plus de temps que prévu. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça?
Oui, alors ce qui a beaucoup aidé, c'est que les Afghans eux-mêmes se mobilisent. Donc les Afghans se sentent encerclés et laissés à eux-mêmes. Le gouvernement ne peut pas les protéger, c'est clair, ils le savent. Donc la population prend les armes. Donc le mois dernier, quand j'étais à Kaboul, les jeunes universitaires à qui je parlais m'expliquaient qu'ils abandonneraient leurs études pour se battre contre les talibans, pour ralentir leur avancée. Et c'est ce que font les civils partout dans le pays. Donc des milices se créent en ce moment dans les villages, dans les villes, encouragées par le gouvernement, qui s'avoue presque vaincu, mais sans donner de soutien logistique à ces milices. Donc c'est surtout eux qui ralentissent l'arrivée des talibans. À l'ouest, par exemple, juste il y a 2 semaines, un des seigneurs de guerre historiques, Ismail Khan, a fait sortir les talibans de la ville d'Herat, la troisième ville du pays. Donc c'est cette mobilisation civile qui ralentit les talibans.
Georges Lefeuvre, Nassim Majidi parlait du mois de septembre pour une arrivée vraiment totale et réelle et effective des talibans. Pourquoi finalement ça met encore un petit peu de temps? Est-ce que les talibans attendent ce départ total des Américains pour finir de s'imposer dans le pays? Est-ce qu'il y a ce jeu-là également?
Oui, bien sûr, puisque référence était faite tout à l'heure aux annexes des accords de Doha, où en effet les talibans normalement n'attaquent pas les villes. Ceci dit, ça ne les gêne pas, c'est une vieille stratégie qui existe depuis longtemps. Déjà les moudjahidines contre les soviétiques prennent les campagnes pour asphyxier les villes et pour qu'elles tombent un peu comme des fruits mûrs. Mais surtout, rien n'interdit aux talibans, selon les accords de Doha, d'entrer en scène sur les villes, en effet, dès que les derniers soldats auront quitté. N'oubliez pas que les accords de Doha ne sont pas des accords de paix, mais des accords de retrait. Une fois que le retrait est fait, les talibans ne sont plus liés par rien du tout. Ceci dit, et j'en reviens à ce qui était dit tout à l'heure, avec beaucoup de justesse d'ailleurs, en effet, il y a des milices qui se réarment un petit peu partout. Celle, bien sûr, d'Ismail Khan à Herat qui a été mentionnée, mais également dans le Nord, Mohamed Atta, etc. Enfin, il y a beaucoup de gens qui actuellement réactivent ces milices. Le problème de ces milices, c'est que on peut se retrouver dans une situation proche de celle de 1992, qui serait une guerre civile. Pourquoi une guerre civile? Parce que si les talibans obtiennent, arrivent assez rapidement à prendre des petites villes comme Talokran, comme Kainao, etc., dans le Badris, etc., je pense que, ou des villes où ils ont beaucoup de sympathisants pachtounes, comme même Kunduz ou bien sûr Kandahar, la ville de Kaboul, c'est autre chose. Il n'est pas dit du tout que les talibans feront tomber Kaboul aussi facilement qu'ils l'avaient fait en 1996. À l'époque, Kaboul, c'était 2 millions d'habitants et habité par beaucoup de gens qui étaient fatigués par cette guerre civile 92-96. Aujourd'hui, Kaboul, c'est 5 millions d'habitants et c'est toute une jeunesse qui aspire à la modernité, qui fonctionne sur les réseaux sociaux. Il y a maintenant en Afghanistan des médias, des organes de presse qui fonctionnent extrêmement bien. Et rien ne dit que Kaboul tombera aussi facilement. Donc il y a en effet un risque de guerre civile, mais pour répondre à votre question, oui, au mois de septembre, il y aura probablement une nouvelle avancée des talibans. Je voudrais quand même dire quelque chose d'important.
On vous écoute.
Oui, par rapport au retrait un peu rapide, un petit peu précipité actuellement d'amis afghans qui travaillent pour la France ou d'autres pays, je ne veux pas être péremptoire évidemment, parce que si quelque chose de mal leur arrivait, j'en serais le premier désolé. Mais il est vrai que les talibans n'ont pas intérêt à attaquer les humanitaires ou les diplomates. Bien. Je ne dis pas la même chose pour les militaires. Les gens qui ont... Il y a avec nous donc un ami qui était interprète dans l'armée. C'est un peu différent. Mais les talibans n'ont pas envie obligatoirement d'attaquer les humanitaires.
Pourquoi ?
Ou les diplomates, parce que ce n'est pas leur intérêt. En revanche, ce que l'on peut craindre, c'est que s'il y a une sorte d'entre-deux, lorsque le régime actuel est sur le point de tomber, et si les talibans ont du mal à prendre Kaboul, ce que je crois, il va y avoir une sorte de gap, on dit en anglais un intermédiaire, où un groupe comme ISKP, c'est l'État islamique qui se fait appeler donc province de Khorasan, pour tout dire, pour les auditeurs, c'est Daesh en Afghanistan. Mmh. Daesh n'est pas très puissant, ils sont peut-être 3000 hommes peut-être. Ils ont l'arme du pauvre qui est l'attentat suicide, mais l'attentat suicide fait beaucoup de dégâts, fait un effet de sidération incroyable. On l'a vu dans les quartiers chiites de Kaboul au mois de mai lorsqu'ils avaient attaqué une maternité en 2020, récemment une école. Mais les gens de Daesh, qui sont assez peu puissants, ont une capacité de nuire en ville qui peut complètement déstabiliser la situation, y compris au détriment des talibans. Et là, les questions de sécurité pour des personnels afghans, qui travaillaient pour les puissances étrangères, là, il faudra faire très attention et ça peut se jouer sur le mois de septembre ou octobre, en effet.
Alors, malgré tout, Nassim Majidi, il y a une grande partie de la population, en tout cas, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on pressent, qui a envie de quitter le pays. Est-ce qu'elle va réussir à partir ? En tout cas, ce qu'il souhaite.
Oui, alors la population est en panique. Elle n'a pas accès à l'information. Il y a beaucoup de propagande de toutes parts. Chacun veut montrer sa force. Mais ce qui est certain, c'est que la population ne fait plus aucunement confiance en son gouvernement. Il faut rappeler aussi ce qui vient d'être dit, que 70% de la population a moins de 30 ans. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas connu les époques noires de l'Afghanistan, mais plutôt l'âge d'or post-2001. Ils ont vraiment cru au discours sur les droits des femmes, la liberté d'expression, l'égalité. Ils vont se battre pour défendre ces droits, mais ils vont aussi partir s'ils le peuvent. Mais l'incertitude soudaine leur fait vraiment peur. Les avions se remplissent et récemment, le gouvernement des Émirats Arabes Unis a annoncé que les Afghans n'auraient pas le droit de venir à Dubaï. Ils ne peuvent plus y mettre les pieds. Les vols leur sont interdits. Donc les Afghans se retrouvent laissés seuls face à une situation ingérable et surtout imposée par les Américains. Et le souci premier des Afghans, la discussion qui est la plus répandue aujourd'hui en Afghanistan, c'est comment on peut obtenir des papiers d'identité et un passeport pour partir, exactement. Mmh. Parce que l'accès à la documentation civile est restreinte, surtout en dehors des villes, surtout pour les femmes, les enfants, mais aussi pour des minorités, des déplacés internes ou des groupes ethniques.
Donc il y aura des papiers illégaux qui vont circuler, c'est ça aussi ?
Non, tout simplement, les gens vont être forcés de partir irrégulièrement, illégalement. Les Afghans ont besoin de ces passeports parce qu'ils ne veulent pas rejoindre les rangs des migrants irréguliers. Ils veulent pouvoir partir dignement et librement si le pays tombe dans une guerre civile comme celle des années 90. Mais en juin, par exemple, le service des passeports avait été fermé pendant tout un mois sous prétexte de la pandémie, mais surtout parce que le gouvernement n'arrivait pas à faire face à cette demande et tentait aussi de bloquer l'exode des Afghans, qui aurait été un désaveu pour l'administration Ghani. Mais par exemple, rien que l'armée fuit déjà, des postes sont désertés, des soldats afghans ont traversé la frontière avec le Tadjikistan ces dernières semaines deux fois, fuyant le massacre sur place. En juin, 5000 soldats sont partis. C'est juste un indicateur de cette fuite.
Alors, je voudrais qu'on zoome sur ces interprètes, ces chauffeurs, ces magasiniers, ces professeurs, tous ces gens qui ont travaillé pour les armées, et en particulier pour l'armée française. Certains ont été rapatriés, mais pas tous. Adèle Abdoul-Razik, vous avez été parmi ces interprètes pour l'armée française. Vous avez créé depuis une association des anciens auxiliaires de l'armée. Ils sont combien encore en Afghanistan à demander à être rapatriés?
Un grand merci de m'avoir donné cette opportunité de parler concernant les anciens auxiliaires de l'armée française en
Afghanistan. Avec
plaisir. En gros, il y avait 800 PCRL, personnel civil recrutement local, ont été recrutés par l'armée française lorsque l'armée française a intervenu sur le sol d'Afghanistan dans le cadre des forces internationales pour combattre contre les terroristes et les talibans entre 2001 et 2014. Parmi ces 800, il y avait 300 personnes ont été rapatriées en France et une soixantaine d'autres PCRL ont été aussi rapatriés via la procédure tribunale et il y a encore 80 personnes qui sont en Afghanistan et souffrent actuellement les menaces des talibans et leurs sympathisants. Et les restes de nos collègues, ils ont fui de l'Afghanistan, ils sont partis dans les pays limitrophes comme Pakistan, Iran, et certains d'autres sont partis en Europe clandestinement, ils ont fait une demande d'asile.
D'accord. Mais que fait la France du coup? Rien, parce qu'ils sont plus précisément en Afghanistan. Est-ce qu'elle peut les aider? Et est-ce qu'ils se sentent abandonnés par notre pays?
Bien sûr. Moi, je me sens que la France a abandonné les PCRL, ceux qui ont travaillé avec l'armée française pendant des années. La France, au début, nous a promis un visa lorsqu'ils étaient en Afghanistan. Mais petit à petit, on a vu que malheureusement... ils n'ont pas tenu leurs promesses. Ça veut dire qu'ils ont oublié leurs soldats en Afghanistan.
Nassim Majidi, pourquoi est-ce qu'on laisse ces gens sur place? Pourquoi laisse-t-on les Afghans qui ont aidé l'armée française et l'armée américaine? Pourquoi on ne pense pas à eux?
On pense à eux, mais peut-être un peu trop tard. En tout cas, la France y a pensé avant les Américains. Donc, je crois que le gouvernement français a déjà sorti environ 500 personnes du pays. Maintenant, il faut penser à leur intégration en France également. Les Américains, eux, avaient promis 18 000 visas spéciaux pour ceux qui les avaient aidés et 53 000 membres de leur famille. Le président Biden a récemment doublé les chiffres, mais logistiquement, ils ne savent pas où mettre cette population.
Pour l'instant, et chez nous, c'est pareil. Logistiquement, on ne sait pas où les mettre.
Ici, si, ça a été fait. Ça a été fait. Je crois que, comme l'a été mentionné, environ 500 personnes ont déjà été sorties, mais d'autres restent, bien sûr. Mais je crois que l'ambassade est beaucoup plus active que les autres ambassades en Afghanistan aujourd'hui.
Alors, je voudrais qu'on dise un mot des femmes les femmes afghanes, qui vont être d'autres cibles pour les talibans. Comment est-ce qu'elles vont résister? Est-ce qu'elles peuvent s'échapper? Est-ce qu'elles vont réussir à partir, à fuir, elles?
Les femmes ont le plus à perdre. Donc, dans le quartier de Dasht-e-Barchi, qui a été mentionné tout à l'heure, où les talibans ont déjà attaqué plusieurs écoles ces dernières années, notamment au mois de mai, tuant des centaines de filles. Les femmes me disaient être fières des opportunités qui ont été ouvertes. Elles marchent librement, elles étudient, elles travaillent, mais elles savent que ces gains sont fragiles. Sans protection, ces gains ne tiendront tout simplement pas. C'est pour ça que pour elles, le départ des troupes est un désaveu des droits des femmes. Elles s'inquiètent aussi de se retrouver seules, parce que pour nombreuses d'entre elles, et on a fait une étude pour la Banque mondiale sur ce sujet, elles sont mariées à des hommes qui sont partis à l'étranger, en Iran, au Pakistan, en Turquie ou vers l'Europe, pour trouver du travail dans un contexte de récession économique, de pandémie et d'inflation. Donc ces hommes sont partis pour pouvoir nourrir la famille. Les femmes se retrouvent, elles, avec aucune opportunité de leur parler. Elles n'ont que très peu de nouvelles, des envois sporadiques d'argent et elles ont peur. Elles doivent prendre des décisions de vie ou de mort pour elles et leurs enfants. Comment vont-elles se débrouiller? C'est une pression psychologique qui est extrêmement forte. Les angoisses sont palpables et les femmes en parlent ouvertement parce qu'elles cherchent de l'aide, mais c'est une aide auquel elles n'auront pas accès parce qu'il n'y a pas de service spécialisé dans la santé mentale et dans l'aide aux femmes.
Je voudrais qu'on aille au standard. Isabelle nous attend. Isabelle, vous êtes la bienvenue, on vous écoute. Bonjour.
Oui, bonjour à vous et merci de vos émissions. Moi, je suis bénévole dans une association. Je m'occupe notamment de la réunification familiale des Afghans, c'est-à-dire des Afghans qui sont en France et qui ont demandé à ce que leur famille vienne en France. C'est un droit de la Convention internationale de Genève. Il y a 3500 dossiers de réunification familiale qui sont bloqués à l'ambassade de France en Islamabad. Donc ma question, c'est est-ce que la France ne cherche pas à bloquer les flux migratoires? Et alors qu'il s'agit de femmes, d'enfants, certains enfants sont seuls avec des grands-parents et dans des situations dramatiques.
Merci voilà. Isabelle. Je soumets cette question à Georges Lefeuvre. On a quand même l'impression que l'histoire se répète une nouvelle fois. Est-ce qu'on peut dire les choses comme
ça ? Écoutez, ce que vient de dire votre interlocutrice est tout à fait juste et c'est quand même invraisemblable. Je suis moi-même, je m'occupe de quelques dossiers de rapprochement familial, de jeunes Afghans qui, comme le disait ma collègue chercheur tout à l'heure, les maris, pour des raisons économiques, sont déjà en France, on trouve un boulot. Ils obtiennent le droit de regroupement familial. J'ai deux cas comme ça que je gère. Eh bien, il s'est passé deux choses. D'abord, le consulat d'Islamabad avait reçu l'ordre, au moment du confinement, au mois de mars 2020, avait reçu l'ordre que pour éviter la contamination du coronavirus, on stoppe absolument tous les visas qui pouvaient être donnés à des familles susceptibles de revenir en France pour regroupement familial. Mmh. Ça a été stoppé au mois de mars 2020. Et c'est le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, je ne veux pas dire de bêtises, l'un des deux, je ne sais plus très bien, le Conseil d'État, je crois, qui au mois de janvier 2021, donc très récemment, dit non, attendez, on arrête, c'est pas possible, c'est pas normal, dans la mesure où les préfectures donnent un avis favorable pour le regroupement familial, on ne peut pas les stopper au nom du Covid. C'est inhumain, c'est pas possible. Donc à ce moment-là, les consulats ont commencé à reprendre le travail. Mais les dossiers afghans, ils sont à Islamabad, au Pakistan. Et vous savez, là, c'est pas tout à fait la volonté du gouvernement, mais l'ambassade du Pakistan, de France au Pakistan a été attaquée au mois de novembre dernier. 2020. Et pour des raisons de sécurité, actuellement, l'ambassade d'Islamabad ne fonctionne pas ou plus. Voilà. Et donc, il y a 3500, comme on le disait, peut-être plus, dossiers qui sont bloqués. Et on va commencer à gérer au compte-gouttes les dossiers les plus anciens, qui datent de 2019. Et j'apprends récemment par la préfecture de Montpellier que finalement, les dossiers vont être transmis à Téhéran. Mais les demandeurs ne le savent même pas. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est quand même invraisemblable.
Alors, je voudrais qu'on avance et je voudrais qu'on parle surtout de ces talibans. Est-ce qu'ils ont changé, Georges Lefeuvre ? Est-ce que ce sont les mêmes, le même type de profil qu'il y a 20 ans quand les Américains sont arrivés sur place ?
Écoutez, si on prend les personnages clés comme Stan Exai ou surtout comme Baradar, qui sont les deux personnes, les deux chefs des négociations, surtout Baradar, Monsieur Baradar est quand même co-fondateur du mouvement des talibans avec Mollah Omar, donc en 1994. Donc vu de ce point de vue, il n'aurait pas changé. Maintenant, ont-ils changé ? Oui. Quelque part, ils ont retenu ils ont retenu la leçon de leurs propres erreurs.
Mais ils sont un peu plus modérés ou pas ? Les modérés, ça existe ou
alors,
pas ?
Alors, écoutez, dire que c'est plus modéré, d'abord, les talibans sont quand même très nombreux, ne l'oublions pas. Et entre la volonté d'une direction talibane d'éviter les violences... Vous savez que Sirajuddin Haqqani, qui est le numéro 2 des talibans, a lancé une lettre à tous les commandants talibans, par le site Voice of Jihad, pour leur dire, écoutez, comportez-vous bien avec la population, ne les brutalisez pas, ne faites pas des butins de guerre. Ce qui veut dire que la direction des talibans elle-même a un petit peu peur de ne pas pouvoir contrôler les petits commandants qui localement ont des vengeances à exercer. Mais la direction des talibans ne veut pas être isolée, comme le régime l'avait été de 1996 à 2001, je vous rappelle. Pendant cette période, il n'y avait que trois pays qui avaient reconnu le régime taliban, c'était le Pakistan, les Émirats Arabes Unis et donc l'Arabie Saoudite. Alors, Moutawakil, qui était le ministre des Affaires étrangères, avait un certain Habibullah, qui était son ambassadeur at large, on dit en anglais, ce qui veut dire ambassadeur itinérant, parce qu'il y avait quand même besoin d'avoir des relations à droite à gauche, mais le pays était très isolé au niveau diplomatique. Et là, les talibans ont décidé que leur régime devra être reconnu par la communauté internationale, donc ils vont en tenir compte et il y aura bien sûr un assouplissement de l'hyper-rigorisme idéologique qui était le leur de 96 à 2001. Mais la vraie question derrière ça, c'est une question de principe. Je vous fais remarquer que que ce soit à Doha, que ce soit d'ailleurs à Moscou, que ce soit à Istanbul, ça a échoué d'ailleurs, mais que ce soit à Téhéran récemment, chaque fois qu'il y a une tentative de négociation, en fait, les talibans et les représentants de la société afghane, pas le gouvernement, des représentants de la société afghane, la nuance est importante, n'arrivent pas à trouver simplement l'agenda, c'est-à-dire de quoi on va discuter. Mmh. Alors, là, on est au point fort. Là, je voudrais le dire à tout prix. Les talibans, en fait, veulent le retour de l'émirat islamique. Bien. Et les représentants de la société afghane d'aujourd'hui, par le Haut Conseil de sécurité de réconciliation nationale, veulent le maintien de la République islamique. Donc vous avez deux concepts qui s'excluent l'un l'autre. Mmh. Un émirat islamique, où la charia tient lieu de constitution et où il n'y a pas d'élection. Les talibans disent toujours que les élections sont anti-islamiques et pas besoin d'élection, puisque c'est l'émir, Akhundzada, qui nommerait les hauts fonctionnaires du gouvernement. Donc vous avez un émirat qui remplace la constitution par la choura, pour simplifier, qui s'oppose à la République islamique aujourd'hui, où il y a un système électoral et où il y a une constitution. C'est là le véritable affrontement. Et lors de la dernière réunion à Téhéran, ce qu'ont dit les Iraniens aux talibans, ils se connaissent très bien, leur ont dit, mais vous savez, nous sommes très islamiques, nous sommes peut-être chiites et vous êtes sunnites, on est très islamiques, et on a une république, ce n'est pas anti-islamique.
On a bien compris.
Donc c'est deux systèmes qui s'excluent.
Deux systèmes qui s'excluent.
Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à engager les négociations.
Merci Georges Lefebvre. Je me tourne vers vous, Nassim Majidi, je voyais que vous réagissiez sur les talibans, notamment quand j'ai dit les talibans modérés, ça n'existe pas. Alors il y a ça, et puis il y a surtout un certain nombre de questions de nos auditeurs, notamment par écrit. Christine qui nous dit, mais qui fournit des armes aux talibans? Est-ce que vous pouvez répondre à ces deux questions-là?
Oui, bien sûr. Alors pour répondre à votre question, déjà pour ce qui est des talibans, ils gardent leurs anciennes pratiques et les récits des villages où les talibans sont entrés sont clairs. Ils terrorisent les résidents, ils attaquent les petites entreprises locales, ferment les médias, forcent les femmes à porter la burqa et demandent les noms et les âges des filles et des femmes. Ils préparent des listes des femmes qui seraient célibataires, veuves ou divorcées pour les marier à leurs combattants de force. Donc on revient vraiment à
ce qu'on a connu avant.
Exactement. Ils ont aussi en partie changé. Beaucoup parlent, par exemple, de talibans pakistanais et de soutien du Pakistan, pour répondre à votre auditrice. D'autres parlent de talibans pragmatiques qui seraient prêts à négocier avec les pouvoirs régionaux. Mais la population a peur, justement, parce qu'elle ne sait pas à quelles menaces elle doit faire face, tellement celles-ci sont multiples. Et j'en reviens juste sur un dernier mot, un nouveau rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies qui précise qu'au-delà des talibans, le groupe Al-Qaïda est actif aujourd'hui dans 15 des 34 provinces d'Afghanistan, dans l'Est, le Sud et le Sud-Est, encore une fois proche du Pakistan, et que l'État islamique a solidifié sa base dans ces mêmes provinces et dans la capitale afghane. Donc vraiment, l'Afghanistan devient un terreau de terroristes, mais de groupes multiples.
Voilà, et c'est bien là où je voulais en venir, même si c'est terrible de poser ça comme dernière question, c'est grave et c'est incontournable. L'Afghanistan risque de redevenir ce refuge pour groupes terroristes? Vous, c'est votre théorie, ça c'est certain?
C'est déjà le cas, c'est déjà le cas.
Avec des vrais risques d'attentats ensuite dans nos pays occidentaux ou pas?
On a l'impression de voir l'histoire se répéter, d'avoir eu une parenthèse de 20 ans où les gens ont vraiment cru, espéré et voulu le changement. Mais on a l'impression que c'était une parenthèse et qu'on revient, au même risque auquel on sera tous exposés. Donc ce n'est pas juste la stabilité de l'Afghanistan qui est en jeu, c'est une stabilité régionale et aussi mondiale.
Merci infiniment. On ne termine pas sur une note très, très optimiste, mais autant être lucide. Merci pour votre franchise en tout cas, merci pour l'éclairage de ce matin. Merci infiniment à tous les trois. Je vous souhaite quand même une très belle journée.